Bon, ma présentation, elle va un peu concrétiser certaines choses qu'on a évoquées depuis hier, parce que je vous parlais d'un cas concret, c'est la politique de mémoire qui a été mise en place à Medellín. Donc on va sortir un peu d'une analyse nationale et générale pour entrer dans un cas concret. Je vais commencer par expliquer mon titre, donc « À quoi servent les politiques de mémoire ?». Ce titre, il s'inspire d'un ouvrage qui est paru cette année, qui a été écrit par Sandrine Lefranc et Sarah Gainsburger, qui s'appelle « À quoi servent les politiques de mémoire ?». Et dans leur ouvrage, ce qui m'a intéressée, c'est qu'elles expliquent, elles partent du constat que les politiques de mémoire, qui sont mises en place dans des contextes de sortie de conflit, elles ont pour objectif de changer l'être humain et d'inculquer la tolérance et de créer de la solidarité. Sauf qu'elles disent que ce n'est pas évident de voir comment est-ce qu'une politique de la mémoire va changer l'être humain, que c'est dur qu'on ne peut pas vraiment le prouver, que les politiques de mémoire changent ça. D'où leur question, finalement, à quoi ça sert de mettre en place des politiques de mémoire? Et moi, ce qui va m'intéresser dans cette présentation, c'est de montrer que les politiques de mémoire, elles ont une nature relationnelle, qu'elles créent du lien entre des gens issus de milieux sociaux différents qui portent des intérêts qui sont parfois divergents. Donc, je vais donc évoquer dans cette présentation les différents groupes qui se sont mobilisés autour de la mémoire à Medellín, en partant de la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi j'ai choisi le cas de Medellín? Pour plusieurs points. D'abord, c'est la première ville en Colombie qui a mis en place une politique d'aide aux victimes. Avant que ne soit mise en place une politique au niveau national, la ville de Medellín, la mairie de Medellín, a mis en place une politique d'aide aux victimes en 2003. Et cette politique, elle accompagnait la démobilisation des paramilitaires qui avait lieu au même moment. Donc c'est à Medellín qui a été mise en place la première politique de mémoire avant même que n'existe le groupe de mémoire historique dont fait partie Maria Emma Wills. Donc c'est vraiment une politique pionnière en Colombie et c'est ça qui m'a intéressée à Medellín. Pourquoi aussi? Parce que c'est une ville, bon, comme tout le pays, mais qui a été très touchée par le conflit armé. Donc vous avez entendu parler de Pablo Escobar et du narcotrafic qui a touché la ville. C'est aussi la ville où les écarts de richesse sont le plus importants en Colombie. Et c'est aussi une ville intéressante pour nuancer cette idée de post-conflit. On a déjà évoqué ça hier, mais à Medellín, il y a encore des bandes armées qui contrôlent certains quartiers. Et le dernier point qui m'intéresse avec le cas de Medellín, c'est que c'est une ville qui, depuis les années 2000, s'efforce de promouvoir une image de ville innovante, moderne, et voire de ville résiliente. En 2013, la ville a eu un prix de la Fondation Rockefeller, qui l'a nommée ville résiliente. Donc avec la politique de mémoire, il y a tout un discours de promotion aussi de l'image de la ville à l'international. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi avec le cas de Medellín. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, donc je vais évoquer un peu les origines de cette politique de la mémoire. Ensuite, je vais vous parler plus concrètement du musée Maison de la Mémoire, Museo Casa de la Memoria, qui a été construit en 2011 par la mairie. Et on va voir un peu ce que ce musée génère, qui se mobilise autour de ce musée. Bon, d'abord, pour commencer, il faut bien préciser que ce n'est pas la mairie de Medellín qui a parlé de la mémoire en premier. Dans les années 80, il y avait des mobilisations de victimes dans les rues. Donc à Medellín, il y a une association qui s'appelle les Mères de la Candelaria, Madres de la Candelaria, qui se mobilise depuis la fin des années 80 et qui parle de la mémoire de leurs proches qui ont été assassinés par les guérillas, les paramilitaires, par l'État, et qui revendique la justice. Donc là, c'est une revendication de justice claire, et la mémoire, elle s'insère dans ces revendications. À la fin des années 80, à Medellín, il y a aussi des chercheurs qui vont se mobiliser autour de cette question de la mémoire. Alors, c'est des chercheurs qui viennent d'une ONG particulière qui s'appelle Corporación Región, et aussi de l'Institut, c'est l'Institut d'études régionales, dont l'INER, qui est un institut de recherche de l'Université d'Antioquia, qui est la principale université publique de Medellín. Donc ces chercheurs, ils ne vont pas encore parler de victimes, parce qu'on a au début des années 90, la question des victimes, elle n'est pas encore institutionnalisée vraiment en Colombie, mais ils vont parler de la mémoire des quartiers populaires. Ce qui va les intéresser, c'est d'aller dans les quartiers pauvres de la ville et de s'intéresser à la mémoire en tant que lien, en tant que quelque chose qui permet de faire lien aux communautés qui sont déplacées, donc aux migrants qui viennent des campagnes et qui viennent à Medellín. Donc ils vont parler en fait de mémoire culturelle, de toute la culture qui permet de continuer, de faire communauté en fait dans une ville qui est a priori hostile. Donc eux, ils vont parler de mémoire culturelle et non de mémoire historique. Mémoire culturelle, mémoire populaire. Bon, à partir des années 90, donc dans ce même contexte, il y a plusieurs choses qui se passent en Colombie, donc désolée d'être aussi schématique, il y aurait probablement plein d'autres choses à évoquer, mais il y a la reconnaissance de la diversité ethnique et culturelle par la Constitution de 91, il y a aussi l'institutionnalisation de la question des droits de l'homme, il y a une attention internationale croissante pour le conflit armé qui est liée au narcotrafic et à l'aggravation du conflit armé. Tout ça fait qu'il va y avoir un discours qui parle d'une culture de la paix qui va se diffuser en Colombie. Ce discours, il va être aussi promu par des organisations internationales comme l'UNESCO. Donc pour vous donner un exemple, en 86 à Carthagène, l'UNESCO fait une conférence internationale qui s'appelle « L'enseignement de l'histoire pour l'intégration et la culture de la paix ». Donc là, on commence à réfléchir un peu au rôle que peut avoir la mise en récit du passé dans la pacification du pays. Donc là, on est au début des années 90. Je reviens au cas de Medellín plus particulier. Le groupe de chercheurs qui vient de l'INER et de Corporación Herrión dont je vous ai parlé, en 2004, il va commencer à travailler avec la mairie de Medellín. Donc il y a l'élection de Sergio Fajardo qui arrive à la mairie. Et on a une nouvelle politique qui va être mise en place. Là, il va y avoir vraiment une politique d'aide aux victimes, donc qui va être mise en place par Sergio Fajardo et qui va être prolongée ensuite par son successeur Alonso Salazar. Donc une politique d'aide aux victimes qui comprend un volet psychologique, un volet d'assistance juridique et un volet donc de mémoire historique. On a les chercheurs dont je vous ai parlé, ils vont aller dans les quartiers. Cette fois-ci, ils vont pas parler de mémoire culturelle, mais ils vont faire témoigner les habitants des quartiers en tant que victimes du conflit armé. Donc là, on a un changement dans la perspective adoptée par ces chercheurs. Cette politique, ce premier rapprochement à la question mémorielle par la mairie, il s'accompagne aussi d'une politique, moi en tout cas ça m'intéresse de faire le lien, il s'accompagne d'une politique urbaine qui est mise en place par la mairie de Sergio Fajardo. Donc cette politique urbaine, vous en avez probablement entendu parler, c'est l'urbanisme social. Donc l'urbanisme social, c'est l'idée consiste principalement à cibler, à amener en fait les services publics dans les quartiers défavorisés. Derrière ça, il y a d'autres enjeux qui sont l'amélioration des indices de sécurité, il y a aussi la légalisation de quartiers qui sont informels. Donc on a cette politique qui va être mise en place, et ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs qui travaillent sur la mémoire, ils vont travailler de pair avec la mairie. C'est-à-dire que l'idée, c'est de reconnaître qu'il y a des quartiers qui ont été délaissés par la mairie depuis des années. Et cette idée, ça suppose d'une part de reconnaître qu'il manque des services basiques aux populations, mais ça suppose de reconnaître aussi que ces populations, ce sont celles qui ont été les plus touchées par le conflit armé. Donc les deux enjeux de urbains, de sociaux et de mémoire, ils sont vraiment couplés. Et finalement, donc le musée de la mémoire dont je voulais vous parler, donc le Museo Casa de la Memoria, il est vraiment à la croisée à la fois d'une politique urbaine ambitieuse et d'une politique de la mémoire. Une politique de la mémoire donc qui vise à reconnaître les victimes et à pacifier la ville. Donc ce musée, il a été construit en 2011 et il a pour ambition de mettre en récit le conflit armé à partir du témoignage des victimes. Et donc la prémisse de ce musée, c'est se souvenir pour ne pas répéter. Pour vous expliquer un peu comment est le musée, donc il y a une salle d'exposition permanente qui s'intitule « Medellín, mémoire » au pluriel, « mémoire de violence et de résistance ». Cette exposition, elle est constituée de plusieurs dispositifs interactifs. Il y a une chronologie de l'histoire du pays et de l'histoire de Medellín. On a aussi des témoignages audio, vidéo de victimes. Il y a aussi des tables thématiques en fonction des profils de victimes. Une idée centrale du musée, c'est de mettre en récit le conflit armé à partir de voix différentes, à partir de la voix des victimes, mais aussi à partir de celle des perpétrateurs, aussi à partir des témoins, donc pas forcément les victimes, mais les habitants de Medellín qui ont été des acteurs passifs, mais pas forcément indifférents, je reprends les termes du musée, et aussi des acteurs sociaux et politiques, donc qui se sont mobilisés dans des mouvements sociaux contre la violence. Donc il y a vraiment cette idée de multiplicité des voix et des récits dans ce musée. Ce qui est intéressant avec ce musée, c'est qu'il a été construit dans le cadre d'un projet urbain de réaménagement d'un quartier. Donc, c'est un quartier qui est proche du centre de la ville, du centre-ville. Et en fait, le musée, il fait la jonction entre plusieurs comunas, donc plusieurs quartiers, donc la commune 8 et 9. Donc ce sont des quartiers, des comunas qui ont été fortement touchés par le conflit armé. Et en fait, le musée, il permet de faire le lien un peu entre le centre historique, où il y a le patrimoine architectural de la ville, et ces quartiers qui sont plus pauvres et qui ont été touchés par le conflit armé. Donc ce musée a été construit dans un parc. Il y avait aussi un projet de réaménagement d'un ruisseau qui était délaissé, qui était pollué, etc. Donc il y a tout un projet urbain et environnemental autour de la construction de ce musée. Et en fait, un point qui me semble important de souligner, c'est que ce musée a été construit pour construire ce musée, il a fallu détruire un quartier, en fait. Il y avait un quartier qui était populaire, où il y avait des problèmes de drogue et de prostitution. Et pour construire ce parc et ce musée, la mairie a détruit le quartier et a relogé les habitants dans d'autres quartiers du pays, de la ville. Et donc les maisons ont été détruites dans un contexte assez conflictuel. Il y a des habitants qui ne voulaient pas quitter leur quartier. Ils ont été délogés par les SMAD, par la police anti-émeute. Donc cette question de la construction d'un musée qui rend hommage aux victimes sur les ruines d'un quartier populaire, ça m'amène à m'interroger sur l'articulation entre la nouvelle Medellín, la Medellín ressuscitée. Je reprends les termes d'Alonso Salazar, l'ancien maire de Medellín, qui parlait de la résurrection de la ville. Donc ça m'amène à m'interroger sur l'articulation entre cette Medellín nouvelle ressuscitée et la Medellín qui est effacée par le renouvellement urbain. Est-ce qu'il y a une guerre de mémoire? Est-ce que la mémoire des victimes, elle efface la mémoire des quartiers populaires? Comment ça se passe? Et le musée, c'est vraiment un objet intéressant pour voir ces tensions qu'il y a entre ces différentes mémoires. Justement, la position du musée, elle est très intéressante parce que les employés, la direction du musée, du moins quand j'y étais, donc c'était en 2013, en 2015, s'efforcer de faire le lien entre les quartiers et les autres thématiques. Le musée de Medellín, quand j'y étais en 2015, était devenu un centre par lequel tout acteur associatif qui travaillait un peu sur la mémoire ou sur les questions culturelles devait passer. Il y avait aussi beaucoup de classes, de collèges, de lycées qui venaient. Et donc le musée essayait vraiment de faire un pont entre les différents acteurs de la ville. Et pour relier ça à la question urbaine, en 2014, la ville de Medellín a accueilli le Forum urbain mondial. Et à cette occasion, justement, le musée, il a fait une exposition, lui, qui s'appelait « Récits depuis la frontière ». Relatos desde la frontera. Et dans cette exposition, en fait, le musée parlait des quartiers qui n'étaient pas reconnus par la mairie, des quartiers qui étaient informels, et il mettait en avant la légitimité de ces quartiers qui ne sont pas reconnus par l'administration, qui sont situés donc dans les collines, dans les hauteurs de la ville. Il mettait en avant la légitimité de ces quartiers à appartenir à la ville. Et finalement, il y avait un discours qui était vraiment très qui s'opposait en fait à ce contexte de forum urbain mondial qui était promu par le musée. Ça c'est un premier point. Donc cette idée que le musée il a essayé de mettre en évidence les résistances qui émergent, donc des luttes pour la ville et pour le territoire. Et finalement, le musée, à la fois, il participe à la promotion de cette nouvelle Medellín du post-conflit, du Medellín pacifié, mais en même temps, il explique que tout n'est pas résolu, et il explique qu'il y a d'autres mémoires que celles des mémoires résilientes. Ça, c'est le premier point. Et un deuxième point intéressant, c'est que les habitants des quartiers, donc de la commune 8 et 9, ils se sont aussi emparés du thème de la mémoire pour défendre leur quartier. Donc, je vous ai parlé du projet urbain dans lequel s'insérait le musée. Ce projet urbain, il s'étend. Il y a plusieurs projets de la sorte à Medellín. Et quand j'étais là-bas en 2015, il y avait notamment un projet de construire une ceinture verte, donc comme un chemin écologique qui parcourait les hauteurs de la ville et qui devait être notamment auquel on pouvait accéder par une nouvelle station du métro câblé, donc du téléphérique qui existe à Medellín. Et il y avait plusieurs travailleurs du musée qui vivaient dans des quartiers où allait être construit ce chemin écologique. Et donc ce chemin écologique menaçait finalement les quartiers dans lesquels ils habitaient. Donc il y avait des donc il y a eu des mobilisations pour des habitants qui défendaient leur quartier, leur légitimité à appartenir à la ville, et la mémoire, elle a joué un rôle dans leurs revendications. Donc plus concrètement, en avril 2015, une association qui s'appelle Ciudad Comuna a organisé un festival itinérant pour la mémoire dans ces quartiers, donc c'était la Comuna Ocho. Et ce festival, il était fait en partenariat avec le musée, donc il était en très grande partie financé par le musée. Et donc l'idée, c'était de mettre en avant, donc Ciudad Comuna parle de la mémoire communautaire, l'idée c'était de mettre en avant toutes les modes de vie alternatifs finalement. Par exemple, ça va être les potagers qui sont construits par les habitants, et ça va être la culture qu'ils ont importée, qu'ils amènent de leur région, parce que la grande majorité des habitants sont déplacés et viennent d'autres régions. Donc l'idée, ça va être de mettre en valeur ça, de mettre en valeur aussi l'idée que ce sont des déplacés qui ont construit seuls leur maison et qu'ils ont droit à faire partie de la ville. Et donc cette mémoire communautaire, c'est devenu un argument dans leur lutte en fait pour leur droit à appartenir à la ville. Donc eux, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils se distinguent du discours. Ils parlent pas de mémoire des victimes, de mémoire historique. Ils insistent sur cette idée-là, qu'ils veulent pas qualifiés de victimes. Ils reconnaissent qu'il y a des victimes, mais eux, ce qu'ils veulent mettre en avant, je parle de Ciudad Comuna, c'est qu'ils ont une capacité à agir politiquement. Donc ils rejettent un peu ce discours qui peut être sur une victime qui serait un peu passive, qui peut être parfois promue par certains. Par certains acteurs. Pour conclure, donc pour reprendre les questions initiales, à quoi sert la politique de mémoire ? Il me semble qu'elle semble à rassembler donc des acteurs issus de milieux sociaux différents, qui portent des intérêts parfois antagonistes, et la mémoire, elle peut être vue comme un langage qui va rassembler des acteurs différents, mais qui permet aussi de recodifier des luttes de pouvoir historique. Donc notamment là, les luttes pour l'appartenance à la ville. Il me semble important pour terminer de mettre en perspective cette mise en place d'une politique de mémoire à Medellín, avec la présence de groupes armés dans certains quartiers, notamment la Comuna Ocho dont je vous ai parlé. J'ai pas pu aborder cette question dans ma présentation. Elle a déjà été abordée hier et tout à l'heure. Mais il est aussi important de nuancer ce que je viens de dire et de se demander jusqu'à quel point la mémoire rassemble dans un contexte, jusqu'à quel point la mémoire est élastique et rassemble des acteurs dans un contexte où il y a des bandes armées et où la parole n'est pas forcément libre. Donc ces informations sur la présence de groupes armés, elles sont récentes. Et mon dernier travail de terrain date de 2015, donc je ne suis pas non plus spécialisée sur cette question. Mais pour terminer, ce que je voudrais dire, donc, c'est que la mémoire, la politique de mémoire, elle crée du lien, elle crée du politique, dans le sens où il y a de nouveaux points de rencontre entre gouvernants et gouvernés qui se tissent à travers la question mémorielle. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Néanmoins, se focaliser sur la question mémorielle ne doit pas faire oublier aussi que la plupart des habitants de Medellín ne vont pas à ce musée. Qui est au centre, mais il faut quand même pouvoir se payer un billet de bus pour aller dans ce musée, que le public est en majorité composé d'un public scolaire, de voisins et de touristes. Et donc on peut même aller plus loin et se demander s'il n'y a pas quelques risques avec la question mémorielle. Et surtout, ça se voit avec Medellín, cette idée de promouvoir une ville pacifiée et résiliente. Et ce discours, en fait, pourrait aussi cacher le fait qu'il y a encore des groupes armés qui sont présents dans la ville. Je vous remercie.
Merci.
Bueno, merci beaucoup à Julie pour cette présentation bien passionnante et présente, les problèmes de la possibilité, mais aussi les limites des politiques de mémoire. Et Maria Emma, mon collègue, attachée à Centre national de mémoire historique, a travaillé beaucoup sur les pédagogies de la mémoire en Colombie. Et elle va faire son présentation sur ce sujet.
Entonces, voy a presentarles un proyecto que está como en el centro de lo que he venido haciendo en en mi cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica y que tiene que ver con una caja de herramientas que produjimos con maestros y maestras de varias partes del país para poder llevar la memoria al aula, la memoria histórica al aula. Y digamos que ha sido un proyecto apasionante, retador, donde me he dado un poco de frente con las limitaciones que también tiene el sistema educativo en Colombia, pero en el cual creo profundamente. Entonces, dividí en tres partes la presentación. La primera tiene que ver con una pregunta obvia que ustedes quizás están haciendo y es ¿por qué hacer una caja de memoria histórica en el Centro Nacional de Memoria cuando realmente hay un Ministerio de Educación que es el ente rector estatal que tendría que estar haciendo este tipo de producciones? Entonces ese es mi primer punto, porque desde el centro nos metimos, si se quiere, un poco en el campo del Ministerio de Educación. Segundo, ¿cuáles son los vacíos que yo veo en términos de estudios de pedagogía en memoria histórica? Y tercero, la cajita. ¿Qué hicimos con la cajita? Y bueno, y cuarto, el balance crítico que hacemos de la cajita, porque hemos ido a aula, entonces ya podemos decir en qué ha funcionado y en qué, sinceramente, nos estamos rajando y hay que seguir trabajando. Entonces, primero, ¿por qué desde el centro? Entonces, ustedes saben que en justicia transicional hay un punto que se llama garantías de no repetición, que suena muy elegante, garantías de no repetición. Todos los países tratan de hacer justicia transicional para que justamente se salga de ciclos de violencia y haya una ciudadanía y una democracia consolidada, digamos, como el anverso de la violencia. Esas garantías de no repetición en la justicia en la literatura de la justicia transicional están vinculadas sobre todo con dos tipos de reformas: reformas al aparato de la justicia y reformas al aparato de seguridad. ¿Sí? Es como si las garantías de no repetición estuvieran ancladas en actores en armas o en los jueces. Del campo de la cultura se habla muy poco en los estudios de transición y bueno, eso es sorprendente porque desde mi punto de vista pues las garantías de no repetición tienen mucho que ver con el campo cultural, con qué es aquello que no podemos seguir reproduciendo en la mirada que tenemos sobre los conflictos y en los marcos interpretativos que tenemos de esos conflictos. Y por lo tanto, lo que yo añoraría en esas literaturas de balance de la justicia transicional es que hubiese más preguntas sobre el sector cultura, sobre lo que implica realmente transitar de una sociedad donde nos hemos visto como antagonistas a una sociedad que tramita los conflictos entre opositores legítimos. Es decir, ahí hay un cambio de paradigma mental que necesita más estudios. Ahora, es verdad que el sector cultura sí se ha visto en esa literatura de justicia transicional, más que todo vinculada a la reparación simbólica de las víctimas, y creo que Juan Manuel Echavarría, con todo lo que está haciendo, está aportando a esa reparación simbólica de las víctimas, y también más ligado a ese vínculo entre arte y tramitación del trauma. El campo de la cultura también ha sido analizado desde su potencial para denunciar, para interrogar al poder, para, ¿no? Antígona, por ejemplo, es una obra de teatro puesta en Colombia en escena por mujeres que quieren hacer ver, hacer visible aquello que no es visible en el campo de la cultura, digamos, oficial. Pero para mí el campo de la cultura va más allá de las artes, de la reparación simbólica y de la denuncia. El campo de la cultura, pues es lo que estoy tratando también de argumentar. El campo de la cultura es también esos marcos interpretativos que tenemos los sujetos, tanto personales como colectivos, para interpretar y leer los conflictos. ¿Sí? Es decir, cómo vemos al otro y cómo nos vemos a nosotros dentro de un conflicto. Y ahí es donde yo digo que la caja le apostó a algo que me parece que hace falta a veces en esa literatura de justicia transicional, y es vincular esclarecimiento con reparación simbólica a través de una apuesta en la escuela por lograr que de alguna manera las nuevas generaciones puedan acceder al pasado, tanto desde el campo emocional artístico como desde el campo de las ciencias sociales. Es decir, es una apuesta por lograr que el campo simbólico se vea tanto como una comprensión rigurosa del pasado, unas nuevas narrativas del pasado ancladas en el rigor, pero también como un campo que propone artísticamente, emocionalmente, una nueva mirada sobre el otro. Entonces, para mí, para volver a la primera pregunta, las garantías de no repetición tienen que ver con comprender rigurosamente el pasado. Ay. Comprender rigurosamente el pasado. Pero también reconstruir el vínculo social con las víctimas, es decir, hacer reparación simbólica y a la vez hacerle un guiño al futuro, un guiño al futuro en el sentido de que la memoria nos abra puertas para pensar en clave de no repetición eso que hemos vivido. Y el futuro para mí tiene que ver con un poco lo que decía Michelle Viviorca el primer día, cómo vamos a tramitar los conflictos. Y el futuro tiene que ver entonces con un aprendizaje de debatir nuestras diferencias en clave democrática. Cuando digo democrática, digo reconociendo al otro como opositor y no como enemigo. Entonces, ahí es donde pensamos en la caja de herramientas. Bueno, ustedes me dirán, es un poquito ambicioso una caja de herramientas que le apuesta a la reparación simbólica, al esclarecimiento, es decir, a la posibilidad de entender nuestro pasado y a la vez enseñar a debatir en el aula de manera democrática. Sí, son los tres pilares fundamentales. Pues sí, puede ser ambicioso, pero eso fue lo que tratamos de hacer. Y finalmente... antes de describir la caja, quisiera decir lo que se ha hecho en la justicia transicional, en la literatura de la justicia transicional sobre sistemas educativos, porque sí hay análisis del sistema educativo en la justicia transicional, pero en general están muy vinculados a analizar los textos escolares. Entonces, ¿qué tanto la memoria histórica, qué tanto, por ejemplo, los textos de las comisiones de la verdad se han traducido a textos escolares? Hay análisis de esos puentes. Pero en general, y ahí viene pues también otra como llamada de atención, me parece que analizar los textos escolares no rinde cuentas de si hay esas transformaciones culturales de las cuales estoy hablando. El texto escolar, mirar un texto para ver si se, no sé, si por ejemplo en la Comisión de la Verdad de Perú se tradujo en textos escolares, no nos dice lo suficiente lo que pasa en el aula, en esa relación profesor-estudiante y en esa capacidad de generar una mirada crítica sobre nuestro pasado. Es decir, el texto es una mediación, pero no es la única mediación que ocurre en el sistema escolar. Entonces, digamos, teniendo en cuenta esos vacíos y como esas alertas de que el texto no es todo lo que queremos transformar en un sistema escolar en un momento de justicia transicional, nos propusimos emprender el trabajo de producir una caja con los maestros y maestras, con algunos maestros y maestras de Colombia, pero no solo producir un texto, sino luego ir al aula a ver qué pasa, cómo es apropiado por el maestro y cómo el maestro puede realmente desencadenar procesos, digamos, críticos frente al pasado, democráticos de reconocimiento hacia los demás. Produjimos la caja, ahorita les explico cómo trabaja. Pero lo primero que quisiera señalar frente a ya lo que vimos en lo que ocurría en el aula es lo siguiente. Cuando trabajamos con los maestros para producir la caja, y lo digo con enorme respeto porque los maestros y las maestras, ustedes saben que han sido uno de los objetivos militares de los actores en conflicto en Colombia, así que han sido muy valientes para hacerle frente a esos actores. Pero cuando llegamos a producir esta caja, notamos varias cosas. Uno, las lecturas del pasado de los maestros son lecturas más afincadas como en dogmas narrativos de buenos y malos, que en una lectura crítica y empíricamente fundada sobre nuestro pasado. Es decir, en Colombia básicamente hay una forma de narrar el pasado en la escuela que habla de buenos y malos y punto. Ahí no hay, digamos, procesos históricos anclados en lo empírico. Segundo, hay como unas nociones, es que no sé cómo llamarlo porque yo no soy pedagoga directamente, pero hay unas nociones de tiempo eterno. Las cosas no cambian en Colombia en el aula. En el aula como que la historia siempre es la misma, los 100 años de soledad están ahí anclados. No hay diferencias entre los problemas de los años 30 y los problemas de los años 60 y los problemas de los años 90 y en el 2010. Es un tiempo eterno, eterno, y siempre son los mismos actores y no pasa nada porque siempre estamos condenados a estar reproduciendo nuestra historia como en 100 años de soledad. Eso está bien, digamos, 100 años de soledad es nuestra gran metáfora, pero efectivamente, si uno está hablando de rigor y de mirada crítica sobre nuestra historia, hay que ir más allá, si se quiere, de esos tiempos mitológicos y bajar a lo empírico. Bueno, ese bajar a lo empírico, difícil, difícil. Y otra cuestión que surgió de ese trabajo con los maestros es que no sé tampoco muy bien cómo llamarlo, pero esa capacidad de interrogar la realidad, interrogarnos también a través de la contrastación de fuentes, y yo diría aquí apelando a uno de los fundadores de la sociología, de Weber, de ser capaz de ver las realidades que nos incomodan, ¿sí? De ver críticamente realidades que nos incomodan, también es muy difícil de presenciar en el aula de clase. Porque justamente lo maniqueo nos impide ver o hacer preguntas o interrogaciones a quienes consideramos los buenos de la historia, si tenemos como esa matriz de buenos y malos. Eso fue lo que, digamos, descubrimos haciendo la cajita. Entonces, la cajita tenía que romper esos esquemas mentales y proponer una ruta pedagógica que pudiera realmente abrir una cantidad de interrogantes en clases de ciencias sociales y de artes. ¿Cómo lo hicimos? Entonces, lo primero, la ruta de la caja no arranca por la historia del conflicto armado. Arrancar por la historia del conflicto armado era dictar una clase de historia, sí, es decir, una clase tradicional de historia. Y nosotros queríamos realmente que fuera una clase de memoria histórica. Entonces, lo primero fue interrogarnos sobre ¿y quién es ese joven? ¿No? ¿Qué proyecto de vida trae? ¿Qué mundo, qué universo representa? ¿Qué preguntas se hace? ¿Qué dilemas tiene? ¿Qué frustraciones, qué sueños tiene en su imaginario? Y por lo tanto arrancamos no por la historia, sino por la memoria, ¿sí? Por el ¿quién eres tú? Bueno, y el maestro también, ¿quién soy yo? Entonces la ruta arranca más por una serie de preguntas sobre vida cotidiana y presente, y no sobre el pasado, para, si se quiere, arrancar por las vivencias de los chicos jóvenes o de los maestros y poder hacer de esas vivencias un laboratorio de preguntas. ¿Sí? Entonces, si yo quiero entender la reforma agraria y me voy para los años 60 con un chico joven de Bogotá, te va a decir, profe, ¿usted de qué me está hablando? No me interesa.
Pero si tú arrancas primero abriendo la puerta por ¿y quién eres tú? ¿De dónde vienes tú? Y empiezas por hacer como ejercicios donde analizas esa vida cotidiana del chico. El chico, por ejemplo, como todo joven y como todo ser humano, tiene espacios significativos en su vida cotidiana. Y lo pones a analizar con otros jóvenes cuáles son esos espacios significativos. En Colombia, obviamente, los chicos siempre, algunos o muchos, decían la cancha de fútbol es un espacio muy significativo para los jóvenes de Colombia. Listo. ¿Cuáles son los conflictos que se han vivido sobre esa cancha de fútbol? ¿Cómo has resuelto esos conflictos? Y solo en el momento en que el joven entiende que hay algo significativo en el espacio, que el espacio no es solo un mundo material, sino también simbólico, empiezas a entrar por el problema a la tierra, pero desde el lado simbólico. Por el vínculo social que tienen los campesinos, en este caso ahorita les muestro, pues lo pongo a rotar, si quieren ya, para que lo vayan viendo. Por favor, pasas. Este es el libro sobre el salado. Entonces, una vez que arrancas con ¿y qué espacios simbólicos existen en tu vida cotidiana? Vas y miras los espacios simbólicos del campesinado en los Montes de María a través de una cantidad de producciones culturales que hacen esos campesinos, coplas, una cantidad, si se quiere, de formas donde el espacio material se convierte en espacio simbólico. Ahí inicias un viaje que tiene unas particularidades. Yo sé que Ricardo está mirando, pero ¿tengo cuánto? ¿5? Bueno. No, dame 5. Entonces, tiene varias particularidades ese viaje por la historia. Uno podría hacer un texto de historia diciendo, como digo yo, un texto con la voz de Dios, ¿no? Esto es lo que tienes que pensar. Entonces, hay una reforma agraria aplazada desde hace mucho tiempo y tienes que defender la reforma agraria. Pero efectivamente, eso no es un libro de historia, es un libro, si se quiere, que no va a convencer a la juventud porque no la deja explorar y hacerse preguntas. Así que este libro del Salado lo que presenta es los dilemas que hay frente a la tierra. El modelo que Jacobo llamó, se me olvidó. El modelo, aquí está como el modelo agroindustrial, si se quiere, y el modelo campesino para la tierra. Y los dos modelos presentan sus argumentos, es decir, yo no le digo al chico, mira, tenés que pensar esto porque esto es lo justo, sino que pongo los dos modelos, presento las distintas posturas de los actores y voy contando una historia con esas tensiones. De la misma manera presentamos los actores armados. Ahí, digamos, vamos caminando por una línea muy fina, porque luego de, obviamente, el modelo de la tierra, en los Montes de María, ustedes saben que hubo una cantidad de masacres y de asesinatos y desapariciones, presentamos entonces las dinámicas de los actores del conflicto y de nuevo ahí tomamos un riesgo. Presentamos la postura de las guerrillas, presentamos la postura de la fuerza pública y presentamos la postura de los paramilitares. ¿Con qué fin? Con el fin de que los estudiantes puedan hacer una lectura crítica de esas posturas, puedan interrogar esas posturas. Y finalmente, para no tardar demasiado, hay otro capítulo donde analizamos la masacre y los chicos tienen que escuchar los testimonios de las víctimas sobrevivientes contando qué sucedió en El Salado y cómo fue que sucedió. Es un momento, si se quiere, solemne, porque llamamos básicamente a los profes para que en el aula logren, si se quiere, recrear un espacio de enorme respeto para escuchar a las víctimas y para conectar a los jóvenes del campo o de la ciudad con aquello que sucedió en El Salado. ¿Todo esto con qué fin? Esto es, se lo resumí un poco comprimido, pero es un poquito más complejo. ¿Con qué fin? Uno, primer punto, la historia no es la historia en abstracto. La finalidad es que mi historia como joven es la historia del país, es la agencia, es conectar con lo que viven otros, ¿sí? En otros lugares, jóvenes, otros jóvenes, y poder ver que esa historia del país no me es tan ajena como yo pienso, que realmente yo hago parte de esa historia y tengo agencia para cambiarla. Segundo, la comprensión del pasado tiene que ser una comprensión emocional e intelectual. Las dos cosas a la vez. ¿Emocional por qué? Pues porque estamos escuchando testimonios desgarradores. Porque efectivamente escuchar el dolor de los demás no es como, yo qué sé, prender la radio por la mañana mientras me baño. No. Entonces hay un vínculo social que hay que lograr establecer a través de la escucha de los otros. ¿Pero por qué rigor intelectual? Bueno, porque finalmente ser agente de la historia es tener la capacidad de ver la coyuntura, el momento en su especificidad y poder analizar, balancear qué puedo hacer yo para cambiar esa historia. Y por último, hay una gran apuesta por la pluralidad de memorias, pero también la pluralidad en el debate, porque en general la caja trabaja es alrededor de problemas y preguntas y por lo tanto aspira a generar debate, aspira a que el aula se transforme en una forma de democracia para generar una serie como de competencias y aptitudes de debate democrático que en parte estamos añorando. Y con esto termino, ya va. ¿Cuáles son los balances que hacemos de esta caja en aula y qué es lo que hemos visto? Uno, los chicos conectan. Bien, vamos bien, conectan. Un chico joven de un barrio marginal de Bogotá conecta con lo que vivieron los chicos jóvenes en El Salado. Entonces sí hay una noción de que hacemos parte de un mismo país. ¿Dónde todavía estamos en rojo? A pesar de que le apostamos a ese rigor histórico, realmente el pensamiento histórico en el aula es muy frágil o casi que nulo, diría yo. Entonces, los chicos leen los materiales y siguen hablando, uno, de actores armados como si no hubiera diferencias, como si paramilitares, guerrillas y fuerza pública fueran el mismo paquete de actores armados. Si se quiere, no hay un espíritu crítico empírico que le permita a los chicos jóvenes hacer lecturas políticas finas de lo que pasó en el conflicto. Y tres, ¿dónde todavía nos falta? La agencia. La agencia, sí, pues yo les he contado que la apuesta es realmente una ciudadanía, digamos, ofrecer espacios para que los jóvenes logren como unas posturas críticas que los lleven a ser agentes transformadores de la realidad. La agencia está muy mermada en los jóvenes, no en todos, no voy a hacer esa generalización, porque finalmente los jóvenes fueron los que salieron a defender los acuerdos el año pasado, así que no voy a caer en esos esquemas. Pero en general, en clase, en el aula, lo que uno ve es como, sí, como que me conecto, me horrorizo con lo que pasó, soy empático con los otros, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Entonces estamos trabajando para introducir mucho más aspectos de agencia que le permitan a los chicos y chicas que pasan por esta memoria histórica decir, el país puede cambiar y yo soy una pequeña semilla del cambio que podemos promover. Muchas gracias.